Calade.
Calade.
Ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Salut Patrick.
Salut Jean-François, bonjour les auditeurs.
On va te retrouver aujourd'hui pour la chronique Nuance de Monde. Alors de quoi tu veux nous parler ?
Eh bien, je vais te faire une petite devinette qui n'en est pas une. Si je te dis, Jean-François, la France est un paradis fiscal, est-ce que tu me crois ?
Bah, bien sûr que non. Tous les impôts que nous avons à payer en France, non, pas possible.
Tu ne me crois pas. Et pourtant, c'est vrai. La France est depuis un peu plus de 10 ans devenue un des pays développés qui cajole le plus une catégorie bien précise de Français. Devine laquelle ?
Les plus riches.
Voilà, ouais. Les milliardaires. Et ça, c'est une étude de l'Institut des politiques publiques qui en a apporté la confirmation précise et chiffrée dans des travaux qui ont été publiés en juin 2023 et dont je mettrai les liens vers le podcast. Okay. On a aussi un autre personnage important, un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman. Voilà. Alors, c'est un économiste français spécialiste des inégalités, spécialiste de la fiscalité et des paradis fiscaux. Il est connu mondialement, il est revenu en France, à l'Université de Californie à Berkeley. Donc c'est une pointure.
Une pointure.
Il a repris un peu cette problématique, parce qu'il travaille dessus depuis très longtemps également. Et vous verrez dans un autre lien que je vous mettrai, il produit un graphique sur lequel on voit que le taux d'imposition global s'effondre littéralement et est proche de zéro quand on arrive aux 0,0001% les plus riches.
D'accord, donc plus on est riche, moins on paye d'impôts, quoi.
Exactement, okay. Exactement. Gabriel Zucman ajoute également que quand l'ISF existait, ces milliardaires-là, ils n'en payaient quasiment pas non plus.
Okay.
Donc résultat, le montant total de l'impôt sur le revenu qui est payé par les milliardaires représente moins de 1% du total des sommes perçues en France au titre de l'impôt sur le revenu.
Mais alors, comment c'est possible tout ça ?
Eh bien, l'origine de ce petit miracle se résume en une expression, optimisation fiscale.
Ouais, d'accord.
Les milliardaires gèrent tous leurs revenus par le biais de holdings familiales, donc des sociétés financières qui profitent de certains avantages que procure la fiscalité des revenus financiers. Alors, c'est très simple comme avantage. Les holdings familiales ne sont pas taxées.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est très simple. Pour info, cette pratique est impossible aux États-Unis puisqu'elle est interdite depuis les années 30. Donc, les milliardaires domiciliés fiscalement aux États-Unis payent plus d'impôts que les milliardaires domiciliés fiscalement en France.
Ok, quand même. Mais alors, si on intègre tous les impôts et taxes existants, ça donne quoi, finalement ?
Ouais, ça, c'est intéressant comme réflexion. C'est-à-dire, parlons pas que de l'impôt sur le revenu, mais ajoutons tous les impôts. Eh bien, quand on ajoute tous les impôts, je vais casser le moral des Français, mais ils le savent déjà, et des auditeurs, les Français payent en moyenne 52% de leurs revenus en impôts. Les milliardaires, 27%,
d'accord.
Moitié moins. Et pour information, leurs 27% qui payent, moitié moins qu'un Français moyen, sont constitués principalement de l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt payé par les entreprises que ces milliardaires possèdent, bien sûr, en fonction des bénéfices réalisés. Si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Et vous savez, cet impôt ne cesse de baisser du fait de la concurrence fiscale entre pays depuis plus de 30 ans. Donc, en fait, ils payent de l'IS, mais en fait, ils en payent de moins en moins. Alors, tu me diras, c'est toujours ça de prix, sauf que cet impôt sur les sociétés, il est payé dans le pays de résidence de l'entreprise, donc pas systématiquement en France, loin de là. Donc, ces 27% ne viennent pas tous dans les poches des services fiscaux français.
D'accord. Mais donc, il s'est passé quelque chose à ce sujet ?
Oui, c'est pour ça que j'en parle. Ah. Un texte de loi a été adopté à l'Assemblée nationale jeudi 20 février dernier, il n'y a pas longtemps.
Très récemment. Okay.
Ouais, il instaure un impôt plancher sur le patrimoine des 0,01% des contribuables les plus riches en France, c'est-à-dire ceux qui ont à partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Ça va, ça va. Ils ne sont pas encore milliardaires, mais enfin, ils sont sur la bonne route. Cette taxe est donc inspirée par les travaux de Gabriel Zucman que j'ai évoqué, et elle a pour but de faire en sorte que les milliardaires payent au moins 2% de leur fortune en impôts.
D'accord. Je présume donc que tout le monde n'était pas vraiment d'accord avec ce projet de loi, j'imagine.
Ouais, et c'est là que ça devient très intéressant.
Ouais.
On a vu immédiatement pour qui roulent certains partis politiques. Donc toute la Macronie et toute la droite ont poussé en cœur des grands cris d'orfraie. C'est bien l'expression, les grands cris d'orfraie. Quand j'utilise des expressions comme ça avec mes élèves, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais c'est l'occasion d'enrichir leur vocabulaire.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « c'est une taxe confiscatoire et inefficace ». Alors, je mets entre guillemets ces deux termes, puisque c'est les termes qu'a utilisé la ministre du Travail et de l'Emploi, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne la connaissais pas et je m'en fous. Alors, confiscatoire, alors que les milliardaires payent moitié moins d'impôts que les Français, sérieusement, je crois que là, on peut passer tout de suite sur confiscatoire.
Ouais. Alors, il y a quand même un deuxième argument, et qui est peut-être d'ailleurs plus pertinent. Maintenant, est-ce que cela sera inefficace?
Alors ça, c'est intéressant. Et derrière ça, alors inefficace, en termes d'efficacité, on en attend en moyenne 20 milliards d'euros par an. Donc c'est pas mal dans une France qui explose ses déficits publics, qui doit absolument les réduire. C'est quand même pas mal potentiellement. Mais en fait, derrière cet argument, il y a le risque de voir les milliardaires partir si on les taxe. C'est vrai que les milliardaires peuvent aller s'installer partout dans le monde. Il n'y a pas trop de soucis. Ouais. Alors, réponse, qui s'en aille, hein, on perdra moins de 1% du total de l'impôt sur le revenu perçu en France. Voilà, donc ça ne va pas être une catastrophe. De plus, même s'ils s'en vont, ils paieront quand même pendant 5 ans cette taxe, puisque c'est prévu dans la loi. D'accord. Et ces 5 ans peuvent très bien, par la loi, se transformer en 10 ans ou plus. C'est pas du tout un problème.
Ouais, mais du coup, ils vont transférer leur entreprise à l'étranger.
Oui, et derrière cet argument que je veux bien étudier, il y a pas de souci. Hein, il y a l'inquiétude que s'ils s'en aillent, ils emportent leurs entreprises avec, donc de la création de richesses, de l'emploi, etc., etc. Alors, ma réponse et la réponse des experts, notamment de Gabriel Zucman, c'est parce que vous croyez qu'ils ont attendu pour faire ça ? Vous connaissez la fiscalité des Pays-Bas, la fiscalité de l'Irlande, la fiscalité du Luxembourg ? La compétition fiscale, ça existe depuis plus de 30 ans. Ça a commencé à monter en puissance avec la mondialisation néolibérale au début des années 80. Et la fiscalité, par contre, je rajoute un élément d'analyse globale, la fiscalité ne peut pas être le seul critère pour faire un choix de délocalisation d'une entreprise. Si être présent sur le marché français est stratégiquement indispensable pour l'entreprise, elle ne quittera pas la France. Et à l'inverse, si le marché français n'est plus une cible stratégique prioritaire, les entreprises quitteront le territoire français, quelle que soit la fiscalité. Et elles le font depuis plus de 30 ans.
Ah oui, oui.
Et donc en fait, nous annoncer un tsunami d'entreprises qui quittent la France, c'est complètement stupide, économiquement.
Et conclusion de ta chronique alors ?
Cette proposition de loi a donc été adoptée à l'Assemblée nationale en février. Donc, selon la procédure législative normale, elle va passer au Sénat. Et le Sénat, actuellement, fait tout pour repousser au maximum le moment d'étudier cette loi. Bon, quand il le fera, le Sénat va retoquer cette loi, puisqu'en fait, le Sénat est aux mains de la droite.
Aux mains de la droite, ouais, bien
d'accord
sûr.
Donc, après, la procédure, c'est qu'elle revient à l'Assemblée nationale et que si elle est adoptée, elle est adoptée définitivement. Donc, elle reviendra et à ce moment-là, on aura la réponse à une question très simple que tout citoyen se pose à un moment ou à un autre et que je vous invite à vous poser, chers auditeurs, pour qui roulent nos politiques ?
J'en ai terminé.
Merci
beaucoup, Patrick, pour cet éclairage. Salut.
À plus.
Prenons le temps d'en parler. Prenons le temps d'écouter.
Calade, ma radio.